C'est cette dernière encyclique que Jean-Paul II a écrite dans son pontificat, donc avant sa mort. Et c'est une encyclique qui est très riche, qui fait le lien entre l'Eucharistie et l'Église. Et je me suis dit, c'est peut-être en son temps, je ne suis pas sûr que vous ayez eu l'occasion de la travailler, cette encyclique. Vous savez, une encyclique, c'est quelque chose qui fait partie du magistère d'un pape, et donc du coup de l'enseignement, du trésor aussi qu'il veut nous léguer. Donc je pensais tout simplement méditer avec vous à partir de ce texte, qui est quand même assez dense, peut-être un peu théologique à certains moments, on verra, hein, pour rentrer dans le mystère du jour, justement, rentrer dans ce mystère de l'Eucharistie. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus institua le sacrifice eucharistique dans son corps, de son corps et de son sang. Les paroles de l'apôtre Paul nous ramènent aux circonstances dramatiques dans lesquelles est née l'Eucharistie, qui est marquée de manière indélébile par l'événement de la passion et de la mort du Seigneur. Elle n'en constitue pas seulement l'évocation, mais encore la représentation sacramentelle. Alors, je trouve que c'est intéressant de voir qu'au fond, d'abord, c'est le mystère de notre foi qui se joue là, mais c'est un mystère de notre foi qui doit, d'une manière ou d'une autre, se rattacher à notre foi à Jésus crucifié. Parce que vous le savez, hein, le père Samuel nous l'a exposé tout à l'heure, en même temps que quelques principes de BTP. Hein, donc on a pu bénéficier de cet apprentissage de comment faire un pont, etc. C'est très bien. Et donc du coup, c'est intéressant de voir qu'au fond, notre foi, elle est mise à mal bien souvent par le mystère de la croix. Et je trouve que le Saint-Père, justement, relie tout de suite, comme le fait la tradition d'Église, en disant, voilà, ce mystère de l'Eucharistie, il est né dans des conditions difficiles, il est né dans des conditions douloureuses, il est né dans des conditions même dramatiques, la passion et la mort de Jésus. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est pour nous aussi l'invitation à savoir que l'Eucharistie est là pour nous soutenir dans les épreuves. C'est ce que l'on appelle le pain des forts. Hein, c'est aussi une autre manière de dire l'Eucharistie, le pain des forts. Et donc, du coup, de demander à Jésus aussi que, au milieu des épreuves, qu'on puisse avoir cette humilité, cette sagesse de nous tourner vers l'Eucharistie, de communier, parce qu'on le sait bien, la communion, c'est le cœur même, le centre même de l'Eucharistie. Alors, je continue un peu à méditer là-dessus. C'est le sacrifice de la croix qui se perpétue au long des siècles. On trouve une bonne expression de cette vérité dans les paroles par lesquelles, dans le rite latin, le peuple répond à la proclamation du mystère de la foi faite par le prêtre, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Voilà, donc c'est une représentation sacramentelle. C'est-à-dire, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous participons comme laïcs ou comme prêtres à l'Eucharistie, eh bien, à chaque fois, nous sommes au pied de la croix. Et chaque fois aussi, on peut retrouver dans cette communion avec Jésus crucifié, eh bien, on peut retrouver une véritable force, un véritable soutien, sachant que lui aussi vient communier à nos difficultés, à nos souffrances. Et donc, c'est cette représentation, c'est-à-dire que de façon sacramentelle, bien sûr, on n'est pas au pied de la croix comme on le voit pour ceux qui l'ont vu dans le film de La Passion, hein, de Mel Gibson, où on voit la passion du Christ avec toutes les horreurs sanglantes, etc., que ça représentait. Mais on est dans cette représentation sacramentelle. C'est aussi une invitation à travailler un peu sur le sacrement, de dire un sacrement, c'est justement ce signe visible de quelque chose d'invisible. Et le sacrement est toujours un sacrement de la foi. Et donc s'approcher pour reconnaître Jésus qui se donne. Voici mon corps, voici mon sang. Eh bien, c'est aussi la foi qui nous fait découvrir que le Christ est là présent. Et je crois que, au fond, à chaque fois, dans chaque Eucharistie, on est invité à renouveler notre foi dans les paroles du Seigneur. Parce que comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment le corps et le sang du Seigneur? Parce que c'est aussi une question. On dit, bon, il n'y a pas de différence apparente, visible, entre une hostie consacrée et une hostie non consacrée. Et je crois qu'on sait vraiment que c'est le corps et le sang du Seigneur parce que on croit en Jésus et on croit en sa parole. Et donc, du coup, de se dire, chaque fois que je suis dans le, je célèbre l'Eucharistie, que je m'agenouille pour, ou je me recueille en tout cas au moment de la consécration, je redis ma confiance en Jésus et je redis ma confiance en sa parole. Je lui refais confiance. C'est uniquement sur sa parole que nous nous appuyons pour dire que là est présent vraiment le corps et le sang de Jésus. Il n'y a que sa parole, il n'y a rien d'autre. La foi, la confiance, évidemment, hein, c'est un peu comme dans cette pêche miraculeuse, hein, où vous vous rappelez, hein, sur ta parole nous jetterons les filets. Eh bien, là, ce n'est pas sur jeter les filets, c'est-à-dire dans le sens de l'évangélisation, mais c'est sur ta parole, Seigneur, que je crois que tu es là présent, au cœur même de ce sacrement de l'Eucharistie. Et donc, je crois que ça, à chaque fois qu'on médite sur l'Eucharistie, à chaque fois, c'est notre foi qui est sollicitée, notre confiance en Dieu, notre amour de Dieu, notre découverte aussi de, et chaque fois quelque chose de nouveau. Et je vous invite, on le fera cet après-midi s'il y a le temps, puis il y a quelques-uns qui sont intéressés. On travaillera sur la liturgie elle-même. On travaillera à partir de, on nous a donné quelques magnificates là. Donc du coup, on va travailler sur la liturgie elle-même et de voir au fond que dans la liturgie, nous sommes invités à mettre nos pas dans les pas du Seigneur. Alors voilà, je trouve ça beau de dire que nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, hein, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue jusque dans la gloire, c'est ce que la proclamation qui est faite, hein, par le peuple de Dieu. Mais voilà, nous sommes à chaque messe au pied de la croix. Nous sommes à chaque messe au pied de la croix. Et ça nous aide donc à vivre nos croix quotidiennes, mais aussi ça nous aide et ça nous soutient dans l'espérance. Parce que si nous sommes au pied de la croix, nous sommes aussi au cœur même du mystère de la résurrection. Et le sacrement de l'Eucharistie, c'est un sacrement qui nous conduit à l'espérance. Nous savons que dans chaque Eucharistie, Jésus nous redonne la force en communion, nous redonne la force d'être vainqueurs du péché et de la mort. Hein, c'est pas simplement une représentation du passé. Hein, le sacrement qu'on dit, le père Samuel a parlé, en plus de cette évocation matérielle, mais a parlé du mémorial. Le mémorial, c'est pas une simple évocation du passé. Hein, c'est pas quand on fait, par exemple, mémoire de, je sais pas, le 11 novembre de la victoire de, voilà, sur les troupes de la Première Guerre mondiale, par exemple. Hein, c'est pas à nouveau le traité de Versailles qui est signé. Hein, on fait mémoire, mais comme quelque chose qui est dans le passé et qui reste dans le passé. Alors que quand on fait mémoire dans la liturgie, c'est tout à fait autre chose. Quand on fait mémoire, c'est que, bien sûr, c'est un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais nous faisons mémoire comme quelque chose qui est présent actuellement. C'est ce que dit le Saint-Père. Hein. Ça représente, c'est-à-dire ça rend présent, effectivement, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et ça dans chaque sacrement. Hein, je trouve ça très fort, mais en particulier dans l'Eucharistie, parce que c'est le mémorial, l'Eucharistie. Et déjà, dans la Pâque juive, il faisait mémoire, justement, de cet exode, de la Pâque que le Seigneur les avait conduits à travers la mer Rouge, etc., pour être soutenu dans l'espérance. C'est important parce que, on ne vient pas de rien, c'est pas tabula rasa, on ne fait pas table rase du passé. Au contraire, le fait de s'inscrire dans une tradition, ça nous soutient dans l'espérance. Parce que nous faisons mémoire des merveilles du Seigneur, bien sûr pour au moment de l'Eucharistie et au moment de la Passion, et de voir comment Jésus s'est donné son corps dans l'Eucharistie pour le donner ensuite vraiment sur la croix, mais aussi pour ressusciter avec nous. Et je pense que cette résurrection de Jésus, eh bien, elle nous comble d'espérance, elle nous donne une joie. Et je crois que c'est pour ça que c'est important d'aller à la messe ce dimanche, parce que même si c'est parfois difficile de se lever un peu tôt le matin ou quoi, mais parce que justement on est soutenu dans l'espérance, on est soutenu dans cette dynamique de résurrection, alors que livré à nos propres forces, ben voilà, on voit bien que voilà, on vaut pas grand-chose, hein, livré à nos propres forces, ben c'est souvent livré au découragement. Et donc, quand le Saint-Père dit, voilà, c'est une représentation sacramentelle, dans chaque Eucharistie, qu'elle soit solennelle, comme on vient de la célébrer aujourd'hui, qu'elle soit dans une église de campagne, etc., c'est exactement la même chose, eh bien, nous communions à la passion, à la mort, à la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que nous communions à l'espérance que le Christ nous donne. Et ça, je trouve que c'est quelque chose... Parce que souvent, on peut se demander, mais pourquoi ? Peut-être pas vous, parce que vous êtes plutôt favorable au club, j'allais dire. Donc, vous êtes plutôt inscrit dans l'Église, et puis, j'ai l'impression, voilà, avec une certaine foi. Mais certains se posent la question, mais pourquoi, au fond, aller à la messe le dimanche ? Hein ? Et c'est vrai que... On peut se poser la question, parce qu'on ne voit pas forcément, on n'est pas toujours transcendé, déjà, par la prédication... On n'est pas non plus transcendé par la liturgie. Bon, c'est parfois très pauvre dans nos paroisses aussi, hein, c'est, faut le dire. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui se joue de bien, bien plus profond, c'est que dans d'Eucharistie en Eucharistie, de communion en communion, on fortifie notre foi, notre espérance, notre charité. Et je crois que pour avoir accompagné des personnes qui, au contraire, ont abandonné la pratique... Alors, au début, on ne s'en rend pas compte, si vous voulez. Au début, ça, bon, on a un peu une culpabilité, etc., mais c'est au bout de certain nombre de mois, un certain nombre de temps où on abandonne la pratique, où on voit qu'au fond, on n'a plus ce lieu d'intimité, on n'a plus ce lieu de recueillement, on n'a plus ce lieu pour refaire nos forces spirituelles. Et je crois que c'est... Donc c'est vrai que ça demande un acte de foi régulier, mais en même temps, quand on voit ceux qui ont abandonné la pratique et qui... Voilà, bon, ils n'ont pas tué père et mère, bien sûr, mais ils disent eux-mêmes combien, et parce qu'ils y retournent après, ben, combien ce temps de la messe du dimanche, où on célèbre la résurrection du Seigneur, eh bien, c'est un temps qui les construit, c'est un temps qui les unifie aussi. Alors je vous propose de continuer à méditer hein, sur le texte, hein, le deuxième paragraphe. L'Église a reçu l'Eucharistie du Christ, son Seigneur, non comme un don, pour précieux qu'il soit parmi bien d'autres, mais comme le don par excellence. Car il est le don de lui-même, de sa personne, de sa sainte humanité et de son œuvre de salut. Celle-ci ne reste pas enfermée dans le passé, puisque tout ce que le Christ est et ce qu'il a fait et souffert pour tous les hommes participe de l'éternité divine et surplombe ainsi tous les temps. Moi, je trouve beau que le Saint-Père nous incite de dire, voilà, rentrer dans l'Eucharistie, c'est rentrer dans une logique de don. Hein, c'est le don par excellence. C'est rentrer dans une logique d'offrande. Hein, et vous savez qu'au moment de l'offertoire, le rôle de l'offertoire, c'est de présenter le pain et le vin qui vont être consacrés, mais aussi de présenter nos prières, de nous déposer intérieurement sur la patène. Donc on rentre dans cette dynamique de don de Jésus qui se donne, et on s'associe à ce don-là. Mais en même temps, je trouve que ce qui est important, c'est qu'on ne dit pas souvent, c'est que la... comment dire, oui, au tout début de l'Eucharistie, on verra peut-être cet après-midi avec le Magnificat là, pour regarder dans la liturgie, au tout début de l'Eucharistie, donc il y a ce qu'on appelle la prière collecte, la première après le Kyrie, après le Gloria, prions le Seigneur, normalement il y a un temps de prière, un temps de silence, et dans ce temps de silence, on met nos intentions. Et je dis ça parce que, bien sûr, d'abord, on ne se prépare pas à venir à l'Eucharistie forcément avec une intention particulière, alors que c'est le lieu où on peut justement déposer nos intentions, rentrer, s'associer au don de Jésus qui s'offre au Père. Et on s'associe au don de Jésus qui s'offre au Père de cette manière-là, à travers, en particulier ce qu'on appelle la prière collecte, hein, c'est la prière collecte, donc on collecte toutes les intentions, le prêtre collecte toutes les intentions des fidèles, donc ça veut dire qu'il laisse le temps de silence suffisant pour que intérieurement les fidèles puissent se présenter au Seigneur leurs intentions, et puis ensuite en ouvrant les mains et en prononçant la prière collecte, il ouvre Il offre toutes ses intentions au Père. Et je trouve que, de ce point de vue-là, on est aussi associé, et ça le Concile y insiste très fort, c'est que, alors que bien souvent, en tout cas dans la tradition ancienne, la messe antérieure au Concile, il y avait une certaine, on peut dire, passivité, hein, d'une certaine manière. C'est le prêtre qui faisait sa messe et qui, voilà, et les fidèles s'associaient en lisant le missel, en priant le chapelet, etc. Mais après le Concile, je trouve, il y a une dimension active, justement, des fidèles qui, avec le prêtre, et jamais sans lui, mais avec le prêtre, s'offrent. Hein, et offrent leurs intentions, c'est parce que c'est le Christ qui est là présent à travers la figure du prêtre. Et donc, je trouve qu'il y a cette dimension active, dynamique aussi de don, qui nous pousse aussi au don après, quelque part. Je trouve que c'est parce que le Christ s'est donné à nous. Voilà, maintenant, on va passer ensuite l'envoi en mission, aller dans la paix du Christ, c'est l'envoi en mission, mais on passe aux travaux pratiques. Maintenant, allez vers vous, et vous aussi, allez dans cette dimension de don. Vous aussi, allez vous offrir à vos frères, et je crois que c'est quelque chose qui est très fort, en tout cas, dans notre liturgie, que de dire, le Christ, par son offrande, nous invite chacun d'entre nous à faire de ce don le moteur de notre vie, au fond, la réalité profonde de notre vie. Hein. Ensuite, le Saint-Père, il continue à méditer. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection de son Seigneur, cet événement central du salut est rendu réellement présent et ainsi s'opère l'œuvre de notre rédemption. Le sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain que le Christ ne l'a accompli et n'est tourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer, comme si nous y avons été présents. Tout fidèle peut ainsi y prendre part et en goûter les fruits d'une manière inépuisable. Telle est la foi dont les générations chrétiennes ont vécu au long des siècles. Cette foi, le magistère de l'Église l'a continuellement rappelé avec une joyeuse gratitude pour ce don inestimable. Je désire encore une fois, dit Jean-Paul II, redire cette vérité en me mettant avec vous, chers frères et sœurs, en adoration devant ce mystère. Mystère immense, mystère de miséricorde. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous ? Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui ne connaît pas de mesure. Voilà, là le Saint-Père, dans ce paragraphe, insiste sur le salut. C'est un sacrement, comme tout sacrement, c'est un sacrement de salut. Maintenant, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui que dans d'autres temps de parler du salut, parce que qui dit salut dit aussi péché. Et qui dit salut dit aussi avoir conscience d'un éloignement du Seigneur et que par nos propres forces, nous ne pouvons pas accéder à la vie éternelle. Et donc, qui dit salut, avoir conscience aussi que nous nous sommes éloignés. Et c'est plutôt là que le bât blesse, bien souvent, c'est que, bon, bien sûr, on pourrait mieux faire, etc., mais on ne prend pas conscience à quel point nous ne pouvons accéder à la vie éternelle que si Dieu lui-même nous tend la main, et cette main, c'est Jésus-Christ. Hein, on ne prend pas conscience à quel point nous avons besoin d'être sauvés. Hein, comme un quelqu'un qui serait en train de se noyer, etc., et tend son bras en espérant une main secourable, ben c'est ça le salut. Et je crois qu'il y a des moments dans notre vie, peut-être, où on touche du doigt plus profondément ça, où on touche du doigt que sans moi, vous ne pouvez rien faire, comme nous dit Jésus. Et quand on touche du doigt ça, que l'on a besoin d'être sauvé, alors c'est notre foi aussi qui est fortifiée. Parce que là, on découvre le cœur même de notre foi, que Jésus, hein, Yeshua, celui qui sauve. Alors, on peut se poser la question, en méditant sur l'Eucharistie, où est-ce que j'en suis de ce désir de salut? Où est-ce que j'en suis de ce désir de vie éternelle? Est-ce que pour moi c'est quelque chose de prégnant, quelque chose de concret, de réel, ou d'assez lointain, d'assez, somme toute, voilà, je suis pas si mal que ça, bon, ou est-ce qu'au fond l'Eucharistie c'est simplement pour ma vie spirituelle, mais dans le sens d'un temps de recueillement, voilà, mais qui nous fait du bien, on a des beaux chants, on a des... Mais vous voyez, comme quelque chose un peu qui est fait pour nous, comme quelque chose qui nous satisferait dans notre désir de sacré, mais sans cette dimension d'ouverture à la vie éternelle, sans cette dimension d'être tiré vers le haut par le sacrifice du Christ et d'être sauvé, vraiment, vraiment sauvé. Et ça, je pense que Jésus lui-même nous donne ce sacrement pour nous sauver. Tous les sacrements sont les sacrements du salut. Hein, la confession, le baptême, par commencer par le baptême, etc. Mais je crois que, attention de ne pas voir l'Eucharistie comme un consommateur, quelque part, comme une, c'est ça, une autosatisfaction, voilà, parce que ça me fait du bien, parce que tel père parle bien, parce qu'il y a tel chant, vous voyez, et du coup on viendrait à l'Eucharistie dans un désir d'émotion sacrée. C'est pas mal, mais c'est pas l'objectif, c'est pas le but, c'est pas une émotion sacrée, c'est pour répondre à mon besoin de transcendance aussi. Mais je crois que l'Eucharistie, c'est bien plus fort, c'est Jésus qui se donne et qui me dit « Je suis venu te sauver ». Là, peut-être il faut remettre les pendules, j'allais dire, à l'heure, de ce point de vue-là, parce que parfois on sent une certaine dérive, justement, vers une certaine consommation, une certaine fait d'être peut-être auto-centré, alors que contrairement à ça, l'Eucharistie nous invite à nous centrer vers Dieu et à lui demander le salut. Alors voilà, je crois que c'est bien que le Saint-Père, il nous redise tout simplement ce qui fait la tradition de l'Église, hein. Là aussi, il y a eu parfois, en particulier après le Concile, des dérives où on a insisté beaucoup plus sur la dimension de repas que sur la dimension de salut et de sacrifice. Je me souviens la première fois là que je revenais d'Argentine, là j'étais à Huascan en 2001, la messe chrismale, mais ça s'est plus reproduit parce que l'évêque, à mon avis, a dû dire que ça n'allait pas. Je me demande si elle n'était pas à Senlis, justement. La messe chrismale, elle était à Senlis, ou en 2002. Et ensuite, on dresse les tables, et on va faire le pique-nique. Voilà, l'idée, c'était de dire, le repas que nous partageons, c'est le repas du Seigneur, donc voilà, entre la poire et le fromage, c'est le cas de le dire. Voilà, donc on est aussi... Bon, évidemment, ça ne s'est pas reproduit, à mon avis, c'est pas prêt de se reproduire, parce que c'est mal comprendre. Oui, alors il y a cette idée de fraternité dans l'Eucharistie. Donnez-vous la paix du Christ. Il y a que deux lieux où on salue quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est au stade et à la messe. C'est les deux lieux où on salue quelqu'un. Je pense que au stade, on s'embrasse, on regarde, on connaît personne, etc. Mais on se prend dans les bras, etc. C'est formidable. Et à la messe, voilà. Bon, c'est plus. Mais bon, on se prend moins dans les bras, bon, en tout cas, c'est plus sobre. Mais bon, c'est intéressant de se dire que, c'est bien sûr, il y a une dimension de repas de fraternité, mais de cette dimension de fraternité, elle s'enracine dans cette transcendance, dans ce Dieu qui se donne et qui est le Père de tous, parce que c'est pour ça qu'on est frères entre nous, parce qu'il nous donne accès à nouveau à cette communion avec le Père. Et ça, je crois que, bon, maintenant on voit que ça, quand même, ça évolue et que les choses changent, je trouve, dans le bon sens de ce point de vue-là. Mais oui, le fait que ce soit un repas n'enlève pas du tout cette dimension sacrificielle et cette dimension de salut. Ensuite, le numéro 12. Vous savez pas que les encycliques, c'est par numéro. C'est quel que soit les éditions, en tout cas, on se repère par le numéro. Cet aspect de charité universelle du sacrement eucharistique est fondé sur les paroles mêmes du Sauveur. En l'instituant, Jésus ne se contenta pas de dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais il ajouta « Livré pour vous et répandu pour la multitude ». Il n'affirma pas seulement que ce qu'il leur donnait à manger et à boire était son corps et son sang, mais il en exprima aussi la valeur sacrificielle en rendant présent de manière sacramentelle son sacrifice qui s'accomplirait sur la croix quelques heures plus tard pour le salut de tous. La messe est à la fois et inséparablement le mémorial sacrificiel sur lequel se perpétue le sacrifice de la croix et le banquet sacré de la communion au corps et au sang du Seigneur. Donc voilà, c'est bien de lier les deux, hein, et c'est bien de lier que dans nos Eucharisties, c'est les deux montants de la croix, on le sait bien, le montant vertical, c'est-à-dire la transcendance, et le montant horizontal, l'immanence, la fraternité et en même temps le sacré, hein. Et je crois que ça peut être bien aussi que l'on se pose la question, là plus au plan pastoral, dans nos Eucharisties, qu'est-ce qu'on fait aussi, alors que lors de la célébration il y ait cette dimension de transcendance, etc., mais comment est-ce qu'on honore après l'Eucharistie la dimension horizontale, la dimension fraternelle, hein, ça peut être parfois des apéritifs après, ça peut être l'accueil des nouveaux, l'accueil. Je trouve qu'il faudrait pas, en paroisse je parle, dans une communauté religieuse c'est différent parce que c'est à chaque fois des nouveaux, mais dans une paroisse normalement il y a, bon, c'est plutôt lié à un territoire, et donc du coup de pas perdre de vue ça, parce que qu'est-ce qui attire par exemple chez les évangélistes, ça c'est intéressant, ce qui attire chez les évangélistes c'est beaucoup ce côté fraternel. Et côté que l'on a perdu aussi un peu, on est très entre nous, comme on regarde l'autre comme ça, etc. Et je trouve que il faut trouver des lieux, alors pas pique-niquer à l'intérieur même de la nef, mais trouver d'autres lieux où on puisse exprimer cette fraternité liée à l'Eucharistie. Hein? Et c'était tellement vrai qu'au début, on le voit dans les Actes des Apôtres, ils distribuent le corps et le sang du Seigneur, et ensuite ils vont distribuer aux veuves, etc., le service de la table, hein, c'est-à-dire le service de ceux qui étaient aussi indigents. Donc il y avait cette dimension, et là aussi, peut-être à la faveur de l'élection du pape François, on reprend conscience de cette dimension de fraternité, et en particulier de fraternité avec des personnes plus en difficulté, plus en marge. Hein, alors qu'on voyait, c'est un peu les effets de balancier, hein, qu'il y a aussi dans l'Église. C'est pas, si c'est une réalité transcendante, l'Église c'est aussi une réalité très humaine. Hein, après le Concile, insisté beaucoup sur l'aspect social, on voit là qu'on a insisté beaucoup sur l'aspect de la transcendance, la liturgie, la visibilité, après avoir au contraire insisté sur l'enfouissement. Bon, on voit que maintenant, mais bon, il faut pas non plus oublier le reste, c'est-à-dire que la charité auprès des personnes les plus fragiles fait partie intégrante, hein, du trésor de l'Église, de même que l'Eucharistie. Donc, comment lier entre dans nos communautés paroissiales les deux, trouver une manière intelligente de faire, il y a des manières de faire, voir ce qui se passe ailleurs aussi, hein, pour accueillir, pour être chaleureux, pour, dans la pauvreté de nos communautés, hein, parce que c'est bien, je suis bien conscient, malgré la bonne volonté de chacun, c'est quand même très... C'est aussi très pauvre aussi, mais voilà, je pense que il y a des tas de moyens aussi de sceller aussi cette fraternité, de faire cette dimension de repas lors de nos Eucharisties, ou à l'issue, ou antérieurement, ou bon. L'Église vit continuellement du sacrifice rédempteur. Elle y accède non seulement par un simple souvenir plein de foi, mais aussi par un contact actuel. Car ce sacrifice se rend présent, se perpétuant sacramentellement, dans chaque communauté qui l'offre par les mains du ministre consacré. De cette façon, l'Eucharistie étant aux hommes d'aujourd'hui la réconciliation obtenue une fois pour toutes par le Christ et pour l'humanité de tous les temps. En effet, le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Saint Jean Chrysostome le disait déjà clairement. Nous offrons toujours le même agneau, non pas l'un aujourd'hui et un autre demain, mais toujours le même. Pour cette raison, il n'y a toujours qu'un seul sacrifice. Maintenant encore, nous offrons la victime qui fut alors offerte et qui se continuera, qui se consumera à jamais, qui ne se consumera jamais. Voilà, bon, cette invitation à, sur la, de dire qu'il y a une continuité, bon, ça c'est un peu une évidence, hein. C'est d'où l'importance de la, nous croyons à une transsubstantiation, parce qu'il y a aussi, il y a, juste pour un peu, donc on croit que c'est le corps et le sang du Seigneur parce qu'on croit en sa parole, mais comment se réalise cette présence réelle de Jésus sous les aspects du pain, sous les espèces du pain et du vin, c'est par la transsubstantiation. C'est-à-dire qu'il y a un changement de substance. Hein, donc il y a un changement de substance. C'est plus la substance, nous on est de substance humaine, si on peut dire, etc. On va faire un peu de philosophie parce que, pour comprendre, là, parce que ça, c'est philosophique ça. C'est, et on voit que l'Église a repris justement toute la philosophie, entre autres de la philosophie grecque. Dans n'importe quelle réalité, il y a ce qu'on appelle, visible en particulier, il y a ce qu'on appelle la substance et les accidents. Qu'on appelle les accidents, par exemple, nous sommes de substance humaine, nous sommes de nature humaine, mais on peut être vieux, jeune, on peut être riche, pauvre, on peut habiter en France, on peut habiter à l'étranger. Ça, c'est les accidents, ça c'est accidentel par rapport à la substance, c'est accidentel, ça peut varier. Hein, et du coup, et c'est la manière de habituelle. C'est, habituellement, bah, la substance, elle demeure, mais avec le vieillissement, avec les mouvements, etc., les choses changent extérieurement. Mais là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Les accidents restent stables, mais la substance, elle, change. Mais je dis ça pourquoi c'est important ? Parce que, et ça, c'est un miracle. Ça ne se produit jamais. C'est bien simple, ne cherchez pas, vous n'aurez aucune réalité semblable. C'est un miracle que la substance, le cœur même, ce qui substare, ce qui se tient dessous, hein, les accidents, c'est-à-dire l'aspect visible, pour faire bref, ce qui se tient dessous, reste toujours stable. Hein. Mais là, au contraire, il y a un changement de nature. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est intéressant de dire que c'est pas simplement une transsignification. Parce qu'il y a aussi dans la synthèse, il y a certaines tendances, et particulièrement avec nos amis protestants, où eux prêchent plus pour une transsignification. C'est-à-dire que, où on change de sens, mais il n'y a pas réellement la présence eucharistique. C'est-à-dire que, il y a un sens, on fait mémoire, oui, on pense, mais bon, parce qu'on est là, dans le cadre de l'Eucharistie, qui a un sens différent. Non, nous croyons à la transsubstantiation, c'est-à-dire c'est que vraiment, c'est le corps et le sang du Seigneur qui sont là sur l'autel, une fois consacrés par les mains du prêtre. Et là, je crois que c'est important de se dire ça, mais c'est vrai que c'est un miracle. Et c'est un miracle qui est lieu. Alors, de temps en temps, il y a les miracles eucharistiques. Hein, par exemple, l'Anciano, là, il y a l'Anciano où on voit le sang qui, le vin qui devient du sang, ou alors il y a eu certains miracles eucharistiques d'un prêtre, je me souviens, bon, je ne les connais pas tous. Hein. Si en France, là, il y a eu dans l'Est, là, en Franche-Comté, il y a aussi un lieu où il y a eu un miracle eucharistique, un prêtre qui ne croyait pas à la présence réelle, puis à un moment donné, il s'est retrouvé avec une hostie sanguinolente. Donc du coup, c'est vrai que ça peut calmer un peu, ça peut calmer les doutes. Donc à Faverney, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Faverney. Et donc le miracle de Faverney, c'est un miracle eucharistique. Mais j'allais dire, ça, c'est comme tous les miracles. Les miracles, le miracle eucharistique demande aussi la foi. Hein, on touche le miracle par la foi. Il y a des tas de gens du temps de Jésus qui ont vu Jésus faire des miracles, c'est pas pour ça qu'ils se sont convertis. Mais il y a des miracles eucharistiques, comme pour nous aider aussi à soutenir notre foi, de dire voilà, que ce soit à l'Anciano ou le vin consacré est devenu du sang, ou alors à Faverney, ou voilà, il y a des lieux où on touche un peu plus où le Seigneur se révèle, mais bon, c'est pas l'habituel, quoi. Il faut pas être après les miracles, et puis et ça nous arrivera peut-être jamais dans notre vie. Voilà. Donc cette transsubstantiation sur laquelle le Saint-Père aussi insiste. Hein. Hop, hop, hop. La messe rend présent le sacrifice de la croix, elle n'y ajoute rien et ne le multiplie pas, bon d'accord. Et ce qui se répète, c'est la célébration en mémorial, la manifestation en mémorial. Hein, tout ça pour dire, est-ce qu'il y a... On va se casser un peu les neurones de minutes, les quelques neurones qui nous restent, à peu près actifs, avant le repas, parce que là, on regarde la montre, et là, tout de suite, on pense à beaucoup de choses. Et alors, est-ce que chaque Eucharistie, c'est à nouveau le sacrifice de la croix, ou alors il y a un seul sacrifice dont chaque Eucharistie est le mémorial et la représentation? L'Église s'est posée la question. Est-ce qu'il y a un seul, et donc une continuité, ou est-ce qu'à chaque fois, Jésus s'offre? Alors, vous vous êtes certainement jamais posé cette question, mais on peut aller vers la vie éternelle sans se poser cette question, rassurez-vous. C'est avec les théologiens pour poser les questions, pour se compliquer un peu la tête, mais bon, voilà. Là, le pape, ça c'est la tradition de l'Église, c'est un seul et même sacrifice qui subsiste, dont on fait mémoire. Donc il y a une continuité avec le Golgotha genre dans chaque Eucharistie. Donc c'est voilà cette continuité là au fond nous dit voilà dans chaque Eucharistie nous sommes comme si nous étions au pied de la croix, de la vraie croix de Jésus au Golgotha. Et donc voilà donc c'est la nature sacrificielle du mystère eucharistique ne peut donc se comprendre comme quelque chose qui subsiste en soi indépendamment de la croix. Ou en référence indirecte, voilà, c'est la croix qui est vraiment, qui fait le lien, au fond, avec nos Eucharisties. Alors, ensuite, numéro 13. En vertu de son rapport étroit avec le sacrifice du Golgotha, l'Eucharistie est un sacrifice au sens propre et non au sens générique, comme s'il s'agissait d'une simple offrande où le Christ fait de lui-même, que le Christ fait de lui-même en nourriture spirituelle pour les fidèles. En effet, le don de son amour et de son obéissance jusqu'au terme de sa vie est en premier lieu un don à son Père. C'est assurément un don en notre faveur et même en faveur de toute l'humanité, mais c'est avant tout un don à son Père. Sacrifice que le Père a accepté, échangeant le don total de son Fils qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort, avec son propre don paternel, c'est-à-dire le don de la vie nouvelle et immortelle de la résurrection. Voilà, donc on parle de la question du don et de ce don qui nous a été offert. Ça, c'est intéressant de voir que c'est un don aussi offert à toute l'humanité. Et c'est pour ça que ce salut, là je pense à cette parole, en faveur de toute l'humanité, c'est pour la multitude. Faites cela en mémoire, offert pour la multitude. C'est pas marqué pour les catholiques. C'est pour la multitude. Et donc le fait que ce soit offert pour l'humanité a aidé l'Église qui célèbre l'Eucharistie à prendre conscience que son message n'était pas destiné simplement à un petit nombre, mais était destiné à tous. Parce que l'Eucharistie est offerte pour la multitude. Et donc je crois que c'est pour nous aussi, c'est intéressant de se dire que ce que nous portons à l'intérieur, cette bonne nouvelle, et ça habitait le cœur de l'Église très très rapidement, tout de suite après le concile de Jérusalem, où il s'agissait de savoir si, que relatent les actes des apôtres, que savoir est-ce qu'il faut rester dans la tradition juive avec la circoncision, les interdits alimentaires, etc. Mais tout de suite après, donc ça a été dit, voilà, non, on va ouvrir aussi aux païens. Et du coup, progressivement, l'Église a pris conscience d'elle-même, mais comme quelque chose offert pour l'humanité. Jamais pour un repliement, jamais pour un certain nombre. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être précieux, parce qu'on voit peut-être des tentatives de repliement un peu identitaire dans l'Église catholique ou dans d'autres religions aussi. Mais l'Église, vraiment, de sa nature, elle se pense en fonction de l'humanité. Quelque part, de sa nature, elle se décentre d'elle-même. Et le Saint-Père, François, le dit, allez aux périphéries existentielles, restez pas entre vous. Et il peut y avoir, parce qu'on est minoritaire, parce que on voit bien que la laïcité est bien souvent une laïcité qui agressive quelque part, où on se sent agressé, parce qu'on ne peut pas dire sa foi si on nous dit voilà, rentrer dans la laïcité, etc. Je me suis même surpris moi-même avec le pèlerinage qu'on a eu hier des pères de famille, où on a fait l'envoi là sur le parking à Saint-Léger-au-Bois. Et pendant que je faisais l'envoi, je me suis dit, oh là, il faut pas que je parle trop fort, sinon je vais déranger les voisins, etc. Bon, c'est vrai que c'était 8 heures du matin le samedi. C'est peut-être pas comme moment de commencer à hurler des chants et des cantiques. Mais comme je me suis surpris moi-même à m'auto-censurer. Et je me suis dit, non, cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour tous. Et il faut certainement reprendre conscience de ça dans nos paroisses, de dire, voilà, ce que nous portons, c'est pas pour un petit nombre. Ce que nous portons, c'est pour l'humanité. Et c'est pour ça, entre autres, que l'Église, très rapidement, a eu conscience qu'il fallait aller aux limites de l'humain, entre autres dans les situations de souffrance, d'abandon, de dérédiction, les situations où la personne humaine semblait la plus en difficulté. Eh bien, l'Église a commencé à aller là, dans ces frontières-là, justement, et elle y est allée avec l'Eucharistie comme un signe d'espérance et un témoignage. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut certainement, en tout cas en France, retrouver à la fois cette dimension sociale, mais aussi cette dimension d'annonce. On est avec l'évangélisation, la nouvelle évangélisation qui a habité très fort le pape Benoît d'une certaine manière, mais aussi le pape François, parce que en disant, voilà, il a des paroles très fortes, il dit aux prêtres, vous n'êtes pas des gardiens de musée. Vous n'êtes pas des gardiens de musée, c'est-à-dire, restez pas dans vos églises séculaires, etc. Allez dans les paroisses, allez dans les périphéries. Hein, il est allé, par exemple, il insiste beaucoup sur le fait qu'il est évêque de Rome, ce qui est assez intéressant, de fait, ce qu'il est, hein, de fait. Et donc, du coup, il est allé dans une paroisse à la périphérie, à la banlieue de Rome. Et là, il disait une chose, il dit, quand on est à la périphérie, on comprend mieux le cœur de notre foi. Quelque part, quand on est dans des lieux les plus éloignés de l'Évangile, parce que qui dit périphérie dit comme dans nos banlieues, c'est dans nos banlieues, mais il y a beaucoup de souffrance dans nos banlieues. Voilà, on voit des gens qui sont en difficulté. De même, il est allé en prison le jeudi saint, etc. C'est des périphéries existentielles aussi. Hein, parce que là, du coup, on comprend d'abord le salut, l'importance du salut. Moi, je vous assure, donc, 10 ans d'aumônier de prison m'ont fait comprendre l'importance du salut. Et puis ensuite, c'est là où on comprend quelque part quelque chose pour soi. C'est-à-dire que je découvre, à travers ces lieux périphériques, ces lieux marginaux, ces lieux frontières, je découvre au fond la pertinence de l'Évangile. Je découvre la pertinence de l'Évangile. Hein, et je découvre la pertinence de l'Eucharistie, comme une présence dans ces lieux de solitude, par exemple. Et donc je trouve que c'est intéressant de dire « en faveur de toute l'humanité ». C'est en faveur de toute l'humanité. Attention à ces raidissements, hein, parce qu'on voit bien qu'on est dans une période charnière. Là, on voit que il y a tout un monde qui s'effrite, qui s'effondre derrière nous, et le monde à venir n'est pas clair. Et on le voit au plan familial, on le voit. Ou alors, il est parfois trop clair et on n'y adhère pas. On se dit non, c'est pas de ce monde-là que je veux. Et on voit que c'est il y a Michel Serres, qui est un philosophe, qui a dit on est certainement à la période assez semblable à la Renaissance. Hein, il y a de ces périodes comme ça charnières. Et donc, dans ces périodes charnières, il y a toujours la tentation d'un raidissement, d'un enfermement, de crispation, de crispation identitaire. Ça, c'est assez habituel parce que, justement, on veut sécuriser le terrain et de peur. Et si l'Église, en tout cas, ça peut être une tentation dans l'Église, et dans notre Église de France aussi, il ne faut pas la sous-estimer, mais il y a quelque chose qui est contre la nature de l'Église et contre la nature de l'Eucharistie en faisant ça. Alors que des personnes, disons, sont plus enracinées dans la tradition de l'Église, la tradition de l'Eucharistie, mais en fait, cette tradition a toujours emmené l'Église loin, a toujours emmené l'Église ailleurs. Hein, et je crois que de ce point de vue-là, on a annoncé quelque chose. Il faut être vigilant dans nos paroisses, dans nos communautés, à pas rentrer dans la crispation, mais à rentrer dans cette dimension d'ouverture qui qui encore une fois est de la nature de l'Église, c'est-à-dire de la substance de l'Église. Elle ne s'est pensée que pour la multitude, que pour la multitude. Elle ne s'est pas pensée pour elle-même. L'Église est belle que quand elle ne vit pas pour elle-même. Quand elle s'occupe d'elle-même, quand elle s'occupe de ses trucs, etc. Premièrement, ça n'intéresse personne. Deuxièmement, voilà, c'est pas ça qu'on lui demande. C'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande justement, allez, va, allez, hein, allez, allez dans la paix du Christ, allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. Donc, bien, mes amis, l'heure a sonné.